VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du jeudi 28 octobre 2021. Jean-Roger Billon à ce micro, bonsoir à tous. À la une de nos informations, au Soudan, nouveaux affrontements à Khartoum, au quatrième jour du coup d'État. Le Conseil de sécurité de l'ONU veut le retour d'un gouvernement dirigé par des civils. En Éthiopie, 10 personnes ont été tuées dans une frappe aérienne au Tigré. La région est la cible de bombardements aériens quasi quotidiens depuis la semaine dernière. La COP26 s'ouvre dimanche à Glasgow en Écosse. L'Afrique exige le respect des promesses jamais tenues des pays développés de porter à 100 milliards de dollars par an l'aide au continent. Ici aux États-Unis, Joe Biden a annoncé aujourd'hui, avant son départ pour l'Europe, les nouveaux contours de son plan de dépenses sociales et environnementales, présenté comme historique. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les Sports, mais tout d'abord, le journal. Nouveaux affrontements à Khartoum aujourd'hui, au quatrième jour du coup d'État au Soudan. Les forces de sécurité tentent de disperser à coups de grenades lacrymogènes les manifestants. À l'ONU, le Conseil de sécurité veut le retour d'un gouvernement dirigé par des civils. Le point avec Jacques Aristide.
À Khartoum, les forces de sécurité tentent de démanteler toutes les barricades en tirant des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc. On ne partira que quand un gouvernement civil sera institué, maintiennent les protestataires qui disent soutenir la grève générale. La plupart des organisations de la société civile, les syndicats et associations dissoutes par le général Abdel Fattah al-Burhan ont appelé à une mobilisation massive ce samedi contre le coup d'État. La ministre soudanaise des Affaires étrangères, Mariam al-Sadek al-Mahdi, devenue le porte-voix de la dissidence, a salué les 33 diplomates qui ont signé un communiqué commun condamnant le putsch. Le général Burhan a quant à lui limogé 6 ambassadeurs soudanais qui avaient dénoncé le coup de force, dont celui en Chine, en France et aux États-Unis. À New York, après des jours de pourparlers, notamment du fait de la réticence de Moscou à condamner le putsch, le Conseil de sécurité de l'ONU a simplement réclamé aujourd'hui le rétablissement d'un gouvernement de transition dirigé par des civils.
32 ONG de Tunisie, d'où étaient parties en 2011 les révoltes du printemps arabe, ont exprimé aujourd'hui leur solidarité avec la résistance pacifique du peuple soudanais. Les ONG tunisiennes, dont la Ligue tunisienne de défense des droits de l'homme, ont condamné vivement ce coup d'État militaire qui vise à confisquer le droit du peuple soudanais à être libéré de la tyrannie et à le ramener par la force à l'ère des coups d'État militaires. L'armée éthiopienne a mené ce jeudi une frappe aérienne sur Mekele, la capitale de la région du Tigré, faisant 10 morts, selon une source hospitalière et le Front de libération du peuple du Tigré. Les précisions de Nathalie Barge.
Le gouvernement éthiopien a déclaré que cette frappe a touché une usine de Mekele, utilisée par les rebelles pour l'entretien de leurs équipements militaires. L'aviation a détruit une partie de l'usine Mesfin d'ingénierie industrielle, a précisé la porte-parole du gouvernement, Selama Witkassa. L'hôpital Haider de Mekele a indiqué qu'une zone résidentielle a été touchée et que 6 personnes sont mortes et 21 blessées. Le bureau de communication du Tigré, lié au TPLF, a fait état du même bilan dans un communiqué. Dans la matinée, le porte-parole du TPLF, Getachew Reda, avait confirmé une frappe sur la capitale tigréenne, affirmant que la défense antiaérienne était entrée en action contre un avion ennemi. Le Tigré est la cible de bombardements aériens quasi quotidiennement depuis la semaine dernière. Le gouvernement éthiopien affirme viser uniquement des installations militaires utilisées par les rebelles.
La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a déploré la décision extrême du gouvernement malien dominé par les militaires d'expulser son représentant à Bamako, Amidou Boly, accusé d'agissements incompatibles avec son statut. La CDAO regrette cette décision, mais reste engagée et continuera à déployer ses efforts pour appuyer une transition réussie et apaisée au Mali, selon un communiqué. Monsieur Boly, déclaré persona non grata lundi, a quitté Bamako hier pour Abuja. Un caporal accusé d'avoir participé il y a 34 ans à l'assassinat du père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, a plaidé jeudi non coupable au procès des tueurs présumés de l'ancien président devant le tribunal militaire de Ouagadougou. Le caporal Idrissa Sawadogo, 51 ans, avait été mis en cause mardi devant le tribunal par un autre accusé, le soldat de première classe Yamba Élisée Ilboudo. Ce dernier l'avait désigné comme membre d'un commando de 8 militaires et a attaqué le 15 octobre 1987, le lieu où Thomas Sankara et ses 12 compagnons ont été tués. Au total, 14 accusés sont jugés au procès de l'assassinat de Sankara, dont le général Gilbert Diendéré, 61 ans, bras droit de l'ancien président Blaise Compaoré, que ce putsch avait porté au pouvoir. Génocide rwandais, une information judiciaire a été ouverte à Paris contre Pierre Kayondo, un ancien homme politique rwandais qui vivrait en France pour crimes de génocide et crimes contre l'humanité, pour le rôle qu'il aurait eu au cours du génocide des Tutsis en 1994. Le collectif des partis civils du Rwanda, qui a porté plainte, assure que Pierre Kayondo, ancien préfet de Kibuye, ancien député dans la préfecture de Gitarama, a activement participé à l'organisation des exterminations à Ruango et à Tamboué dans la préfecture de Gitarama. En RDC, l'armée a annoncé jeudi avoir perdu 4 militaires et tué 27 miliciens en 2 jours de combat dans plusieurs villages en Ituri, dans le nord-est du pays. Les combats ont eu lieu mardi et jeudi dans 2 villages du territoire de Djougou, après que les miliciens du groupe coopérative pour le développement du Congo, CODECO, ont incendié plus de 20 maisons dans 4 groupements voisins et attaqué une position des forces armées de la RDC. Le sommet de l'ONU sur le climat s'ouvre dimanche à Glasgow en Écosse. Les pays africains comptent profiter de la COP26 pour exiger aux pays développés d'atteindre leurs promesses de lutte contre le réchauffement climatique. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Ça fait plus de 10 ans que nous attendons les 100 milliards de dollars promis par an pour aider les pays en développement à faire face à l'urgence écologique, déclare le Gabonais Tanguy Gawuma Bekele, négociateur des pays africains au sommet de Glasgow. À la conférence de Copenhague en 2009, les pays riches s'étaient engagés à aider financièrement ceux en développement jusqu'en 2020 pour faire face à l'urgence climatique. L'objectif est manqué et désormais jugé atteignable en 2023, affirme Alok Sharma, président de la COP. Le groupe Afrique veut qu'on revienne sur les rails et qu'on trouve une solution pour combler cet écart cette année, pas dans 2 ans, soutient son négociateur. Il estime que le continent subit le changement climatique sans en être responsable. Pour Tanguy Gawuma Bekele, l'Afrique demande désormais un montant 10 fois plus élevé que les 100 milliards de dollars annuels promis.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a annoncé avoir présenté au Congrès un plan historique portant sur des milliards de dollars de dépenses pour des mesures sociales et environnementales avant son départ pour l'Europe. Le président américain se dit confiant d'obtenir enfin le soutien de toutes les franges du Parti démocrate. Claire Morin-Gibourg.
Je pense que nous avons le cadre d'un plan économique historique, a déclaré le président américain Joe Biden. C'est un cadre qui va créer des millions d'emplois, fera croître l'économie, a-t-il ajouté. Après des mois de négociations difficiles, Joe Biden a consenti à ramener le montant de son plan à 1750 milliards de dollars sur une décennie pour rallier les centristes démocrates. C'est moitié moins de ce qu'il envisageait initialement. Un accord représenterait une victoire politique majeure pour le président américain qui a misé une partie de sa présidence sur l'adoption de plans d'investissement d'envergure pour réformer l'Amérique. Un accord de principe permettrait aussi au président américain de présenter à ses partenaires internationaux en Italie pour le G20, puis à Glasgow en Écosse pour la COP26 sur le climat, l'image d'États-Unis engagés dans la transition énergétique et la croissance, ainsi que dans la lutte contre les inégalités sociales et l'évasion fiscale.
Facebook va changer de nom et s'appeler Meta, a annoncé ce jeudi le cofondateur et PDG du groupe, Mark Zuckerberg, sur fond de critiques d'élus américains et des régulateurs sur la puissance de marché du géant numérique. Cette annonce intervient alors que le réseau social a annoncé un investissement massif destiné à bâtir le métavers, un univers en ligne où les utilisateurs interagissent dans des espaces virtuels partagés. 12 pays européens ont exhorté aujourd'hui Israël à renoncer à son projet de construction de 3000 nouveaux logements en Cisjordanie occupée, une initiative également dénoncée par les États-Unis. Ces 12 pays, dont l'Allemagne et la France, ont rappelé leur ferme opposition à la politique d'extension des colonies de peuplement juifs dans les territoires palestiniens occupés, ce qui, selon ces pays, constitue une violation du droit international et sape les efforts en faveur de la solution des 2 États, israéliens et palestiniens.
Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Rosine Mounizero.
La Banque africaine de développement a annoncé avoir pris un engagement de 75 millions de dollars au profit du fonds ghanéen d'investissement dans les infrastructures. Selon l'agence Ecofin, cet argent constitue un prêt commercial destiné à élargir le portefeuille de cet organe, dont une partie des attributions concerne le financement des infrastructures de transport, notamment les routes à péage, les ponts, les tunnels et d'autres infrastructures. Le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, a estimé jeudi que les prix du gaz qui ont atteint des records historiques devraient probablement rester à des niveaux élevés, même après le mois de mars. Mais évidemment, si les prix restent au niveau actuel, cela détruirait une partie de la demande et nous commençons à observer que certains pays repassent du gaz au charbon et au pétrole, ce qui n'est pas bon du tout pour le changement climatique, pour les émissions du CO2, a-t-il déclaré. Joe Biden a annoncé jeudi, avant son départ pour l'Europe, les nouveaux contours de son plan de dépenses sociales et environnementales, présenté comme historique. Après des mois de négociations difficiles et intenses, nous avons un accord cadre qui, je crois, peut être adopté, a-t-il tweeté avant de se rendre lui-même au Congrès. Pour allier les centristes, il a consenti de ramener le montant de son plan à 1750 milliards de dollars sur une décennie, soit moins de la moitié que ce qu'il envisageait initialement.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. Cyclisme pour commencer. Après l'édition manquée de 2020, à cause du Covid-19, le Tour cycliste international du Faso débute demain au Burkina. 15 équipes prendront part à cette 33e édition dont l'arrivée finale est prévue le 7 novembre à Ouagadougou. Le pays hôte présente 3 équipes. À noter aussi la présence d'équipes des Pays-Bas, de la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Maroc, l'Algérie. La première étape va se courir entre Banfora et Bobo-Dioulasso, 125 km. Football, André Onana fait son retour en sélection camerounaise. Les Lions indomptables jouent leur qualification pour les barrages du Mondial à Qatar 2022 au Malawi, puis à domicile face à la Côte d'Ivoire. Les 13 et 16 novembre, le sélectionneur Antonio Conceição a publié une liste de 32 joueurs convoqués pour ces rencontres avec de grands retours, celui du gardien de l'Ajax Amsterdam, dont la suspension pour dopage prend fin le 4 novembre. On note également le comeback d'Ambroise Onyango, tout comme Junior Onana et Jérôme Onguene, de même que Leandre Tawamba. Le FC Barcelone a annoncé que Sergi Barouane, l'entraîneur de l'équipe réserve, assurera l'intérim de l'équipe première jusqu'à la signature d'un contrat avec un nouvel entraîneur. Hier, après une défaite de trop, celle face au Rayo Vallecano 1-0, le club catalan a limogé Ronald Koeman, alors que le club ne pointe qu'à la 9e place de la Liga. Des noms ont été avancés dans la presse pour le remplacer en première ligne. Xavi Hernandez, l'ancienne gloire du Camp Nou, aujourd'hui sur le banc d'Al Assad au Qatar. Mais d'autres noms ont aussi été cités par la presse, à l'instar de l'Italien Andrea Pirlo, libre depuis son éviction de la Juventus Turin fin mai, ou encore du sélectionneur espagnol de la Belgique, Roberto Martinez. Ici, en NBA, Russell Westbrook a réalisé le premier triple-double de sa carrière avec les Los Angeles Lakers à Oklahoma City. Mais les détenteurs de 17 titres NBA se sont inclinés 123-115 face au Thunder. Westbrook a terminé avec 20 points, 13 passes décisives et 14 rebonds. À Milwaukee, Gianni Antetokounmpo a inscrit 40 points, capté 16 rebonds et délivré 7 passes décisives. Mais les Bucks, champions en titre, ont perdu 113-108 face à Minnesota. De son côté, Bam Adebayo a permis aux Miami Heat de s'imposer chez les Brooklyn Nets 106-93. À Boston, les Celtics attendent toujours leur première victoire à domicile de la saison après avoir subi une nouvelle défaite 116-107 contre les Washington Wizards. Les Los Angeles Clippers se sont inclinés à domicile 92-79 contre Cleveland pour la deuxième fois en 3 matchs.
Page de sport signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Après le coup d'État militaire au Soudan, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu avec le premier ministre déchu Abdallah Hamdok, qui a été libéré avant-hier après son arrestation lundi. Les États-Unis appellent à un retour à la transition dirigée par des civils, comme le rapporte Sidi Sen de la VOA. Le récit est signé Jacques Aristide.
Le putsch a provoqué des manifestations quotidiennes à Khartoum, émaillées d'affrontements meurtriers. La communauté internationale, elle, continue de réclamer la restitution du pouvoir civil. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU.
Une fois de plus, je condamne fermement la prise de pouvoir par l'armée au Soudan et j'exhorte bien sûr toutes les parties prenantes à faire preuve d'un maximum de retenue.
Richard Mills Jr., le représentant adjoint des États-Unis auprès de l'ONU, a pris part à une réunion du Conseil de sécurité mercredi.
Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, tout changement fait au gouvernement de transition par la force à Khartoum affecte l'aide américaine.
Le général Abdel Fattah al-Burhan a dit sous le Conseil de souveraineté qui chapeautait la transition, de même que le gouvernement civil dirigé par Abdallah Hamdok. Au lendemain du coup d'État, le général Burhan a évoqué le danger de guerre civile. Pour Washington toutefois, les militaires soudanais ont anéanti les aspirations démocratiques du peuple soudanais. Ned Price, le porte-parole du département d'État américain, a décrit les objectifs des États-Unis dans une telle situation de concert avec la communauté internationale.
Il faut une libération immédiate de tous les acteurs politiques détenus dans le cadre de ces événements. Un rétablissement complet du gouvernement de transition dirigé par des civils, et il ne faut pas recourir à la violence contre les manifestants pacifiques, y compris l'utilisation des balles réelles. Nous avons fermement condamné les récents actes de violence tels que rapportés contre les manifestants pacifiques.
Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a appelé mardi soir le premier ministre Abdallah Hamdok. Le secrétaire d'État s'est dit heureux de sa libération et a réitéré le soutien américain à la transition menée par des civils vers la démocratie. Il faut des initiatives diplomatiques dans la région, indique via Skype Joseph Tucker de l'Institut américain de la paix.
J'espère qu'il y aura un engagement avec l'Égypte parce que c'est le nœud du problème. Encore une fois, les militaires et leur entourage sentent, que ce soit explicite ou pas, qu'ils ont le soutien de la région. Donc cette attention de haut niveau du gouvernement américain est essentielle.
Après des jours de tractations, notamment du fait de la réticence de la Russie à condamner le putsch, le Conseil de sécurité de l'ONU a réclamé ce jeudi le rétablissement d'un gouvernement de transition dirigé par des civils.
Le Centre global pour l'adaptation affirme que le changement climatique poussera 120 millions de personnes dans l'extrême pauvreté d'ici 2030 et qu'un tiers d'entre elles seront des Africains si rien n'est fait. Les conclusions sont dans un rapport sur l'Afrique. Un compte-rendu de Mohamed Youssouf depuis Nairobi, le récit est de Jenny Kapumbu-Villa.
S'exprimant à Nairobi lors de la publication d'un rapport sur les risques actuels et futurs du changement climatique en Afrique, Patrick Verkoyen, directeur du Centre mondial pour l'adaptation, tire la sonnette d'alarme.
In fact, worldwide, climate change, if unchecked, will push.
Le changement climatique mondial, s'il n'est pas maîtrisé, poussera 122 millions de personnes dans l'extrême pauvreté d'ici 2030, donc 43 millions de nouveaux pauvres en Afrique subsaharienne. Même si le développement est rapide et inclusif, jusqu'à 12 millions de personnes en Afrique pourraient sombrer dans la pauvreté en cette période à cause du seul changement climatique.
L'organisation, basée aux Pays-Bas, a déclaré que l'incapacité de l'Afrique à s'adapter au choc climatique récurrent augmenterait également le coût de l'emprunt, réduisant ainsi les opportunités d'investissement. Selon la Banque africaine de développement, le continent a besoin de 7 à 15 milliards de dollars par an pour créer des programmes d'adaptation. Akinwumi Adesina est président de la BAD.
We will scale up access to climate smart digital technologies. Nous allons étendre l'accès aux technologies numériques intelligentes face au climat et aux données associées, fournir des services agricoles et financiers à au moins 30 millions d'agriculteurs en Afrique. Nous veillerons à ce que le risque climatique et la résilience soient intégrés dans au moins 50% de la valeur totale des nouveaux investissements dans les infrastructures en Afrique.
La BAD affirme qu'elle va investir 8 milliards de dollars pour créer des emplois durables pour les jeunes Africains et des initiatives financières innovantes qui contribuent à augmenter les flux financiers pour l'adaptation et la résilience. Le président Uhuru Kenyatta s'est adressé en vidéo à cette réunion.
Pour mettre en œuvre nos contributions à l'échelle nationale, nous prévoyons d'investir environ 8 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Cela ne représente que 10% de l'investissement nécessaire des NDC, donc nous avons besoin du soutien de nos partenaires internationaux.
Verkhoyen dit outre l'effort pour limiter le réchauffement climatique, il faut aussi investir dans les outils de communication, l'eau et la santé.
$1 investi dans les services d'information météorologique rapporte entre 4 et 25 dollars de profit. $1 investi dans l'eau et l'assainissement non seulement sauve des vies humaines, mais crée entre 2 et 12 dollars de bénéfices. Les pays africains qui investissent $1 dans des cultures intelligentes face au climat peuvent en retirer entre 2 et 14 dollars.
Des hauts fonctionnaires et des chefs d'État du monde entier doivent se réunir dimanche à Glasgow en Écosse pour le sommet sur le climat COP26 et pour accélérer l'action visée par l'accord de Paris pour limiter le réchauffement de la planète.
Les femmes sont de plus en plus sollicitées pour la résolution des conflits en Afrique. L'Institut de la paix des États-Unis a récompensé la Kenyane Josephine Ekiru, qui est parvenu à régler des conflits communautaires dans des villages du nord du Kenya. Nathalie Barge a joint Kamisa Kamara, ancienne ministre malienne, aujourd'hui spécialiste du Sahel, à l'UCIP, qui présente d'abord la lauréate du prix Women Building Peace.
Josephine Ekiru est une dame kenyane qui, pendant des années et de son initiative propre, a mis en place des sessions de dialogue entre les pastoralistes, les éleveurs et les agriculteurs dans le nord du Kenya, qui est une région à fort potentiel agricole et qui d'ailleurs vit sur des revenus agricoles. Et donc Josephine Ekiru a, à travers ses initiatives, réussi à instaurer une paix entre les différentes communautés en permettant justement à ces différentes catégories sociales de pouvoir communiquer, de pouvoir dialoguer, de discuter de leurs différends et de pouvoir surtout les résoudre. C'est une dame au courage exceptionnel et elle a gagné le prix et c'était un vote unanime qu'elle a reçu.
Est-ce que les femmes, qui elles, comme on dit toujours, sont les premières victimes des conflits violents, sont suffisamment, selon vous, intégrées dans les processus de paix et de réconciliation, ou de prévention de la paix, ou de rétablissement de la paix?
En fait, les statistiques nous montrent clairement que ce n'est pas du tout le cas. Les femmes sont sous-représentées dans les processus de réconciliation, de reconstruction de la paix. En revanche, il y a quelques années de ça, je travaillais pour la Fondation nationale pour la démocratie et je finançais à l'époque des organisations de la société civile qui travaillaient dans la gouvernance. Donc la gouvernance incluait également la construction de la paix, la résolution des conflits, etc. Et on avait quand même des ONG de femmes dans la région du Sahel et dans la région de l'Afrique centrale qui étaient actives dans la résolution de la paix. Le conseil personnel que je faisais, c'était quand même que lorsque les femmes décidaient de s'investir dans des activités de résolution des conflits et de construction de la paix, les patriarches qui étaient en place et qui, en général, dominaient ces instances-là, leur faisaient de la place parce que ces dames-là avaient les idées qu'il fallait. Elles avaient la présence qu'il fallait, la volonté qu'il fallait pour justement régler ces conflits. Et elles étaient très puissantes, elles étaient écoutées. Peut-être qu'en termes de nombre, de chiffres, on a une sous-représentation des femmes. Mais en termes de qualité, je dirais que les femmes qui sont impliquées dans des activités de résolution des conflits, et cela peut inclure également des activités officielles. Au Mali, on a eu un processus de négociation entre les anciens rebelles de 2012 et le gouvernement malien. On a des femmes qui étaient là dans les négociations à Alger et qui faisaient partie des différentes délégations, et elles étaient extrêmement écoutées. Elles avaient une participation de qualité et on sentait qu'elles étaient réellement là pour leur mission qui était de résoudre le conflit.
Kamissa Camara, spécialiste de la région du Sahel pour l'Institut de la paix des États-Unis. Le processus de restitution des biens culturels lancé en juillet 2016 par le Bénin a connu une étape capitale hier à Paris par la signature de l'acte pour rendre 26 œuvres exposées pour la dernière fois au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, avant leur retour au Bénin. Sur place, on a hâte de retrouver ces trésors dont les mérites ont été vantés et qui représentent l'identité culturelle du Bénin. Plus de détails avec notre correspondante à Cotonou, Genève Ferradandé.
Le Bénin était à l'honneur ce mercredi au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris, qui a accueilli une cérémonie symbolique pour la restitution de 26 trésors royaux pillés au palais d'Abomey. Ce sera la première fois et certainement la dernière fois que ces œuvres seront exposées ensemble en France. Jean-Michel Abimbola et Aurélie Agbenouti sont respectivement ministres de la Culture et des Affaires étrangères. Ils reviennent sur le symbolisme de cette exposition qui, selon leur dit, permet au public de comprendre et de mesurer la portée du processus de restitution. Et
sur le plan symbolique, je veux dire que les œuvres d'art qui sont issues des palais royaux d'Abomey représentent un chef-d'œuvre culturel, un patrimoine d'exception, comme disent les spécialistes, un patrimoine irremplaçable pour notre peuple et témoigne de l'attractivité et le rayonnement dont ils font l'objet sur les bords de la Seine.
À la fin de la semaine culturelle, c'est-à-dire le 31, il faudrait 5 jours francs pour que l'exposition soit démontée et que y ait les mises en caisse et le rapprochement vers la zone de fret d'où les biens vont être embarqués pour le Bénin.
Après la cérémonie de signature de l'acte de restitution, le président Patrice Talon devrait à son tour se rendre à Paris pour une rencontre avec Emmanuel Macron début novembre, à la veille du retour des 26 pièces du palais royal d'Abomey, jusque-là détenues par la France. Au Bénin, experts en patrimoine, galeristes et responsables de musées se réjouissent de cette restitution qui donnera un coup de fouet au rayonnement de la culture.
C'est les œuvres qui ont été réalisées avec une spiritualité béninoise. Celui qui viendra voir ces œuvres-là ici va les voir autrement.
À travers cette manne providentielle, on a enfin un cadre juridique sur lequel nous, galeristes ou aussi promoteurs de musées, pouvons nous appuyer pour asseoir vraiment notre démarche.
Statues, objets sacrés, trônes en bois sculptés, portes magiques, récipients et couvercles en calebasse sculptés. Que de pièces qui ont été volées lors de la mise à sac du palais d'Abomey par les troupes coloniales du général Dodds en 1892, avant l'envoi en exil en Martinique puis en Algérie du roi Béhanzin. Pour Carole Bonnard, directrice du patrimoine culturel, et Monseigneur Barthélemy Adoukounou, membre du comité pour la restitution des œuvres culturelles, l'engouement des Béninois à revoir ces œuvres rappelle un des rois les plus emblématiques que le Dahomey, aujourd'hui Bénin, ait jamais connu.
On a souvent dit que les Béninois se désintéressés de la question du retour des biens, on s'est rendu compte que c'était faux. Au contraire, ils espèrent l'arrivée de ces biens, ils y pensent.
Une chose est de recevoir ces œuvres, l'autre est de veiller à ce qu'elles soient entretenues. Pour Ousmane Alidi, promoteur du Artistique Africa, un centre culturel, la restitution d'une partie des œuvres pillées est un test qu'il faudra passer haut la main pour espérer le retour des milliers d'autres œuvres pillées et qui sont restées entre les mains de la France.
Ça, c'est un début. On veut tester notre sérieux, notre capacité à prendre soin de ce petit lot d'objets qu'on nous rend. Il faut que nous consentions à des investissements lourds, sérieux, à former des jeunes conservateurs, gestionnaires de patrimoine, et puis à demander à nos scientifiques de nous élaborer des contenus scientifiques pour que ces musées-là ne deviennent pas des espaces morts.
Le 10 novembre 2021 restera gravé dans les annales et les mémoires au Bénin et dans toute l'Afrique comme le jour de retour d'une partie de l'héritage culturel qui a été saccagé, pillé et emporté par les colons français. De Cotonou, Ginette Lua dans les pour VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Jean-Roger Billon à ce micro. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.